notre invité, le beau gosse de l'humour français, le plus beau sourire du music hall hexagonal, celui qui a commencé comme chauffeur de taxi, qui désormais chauffe les salles de spectacle. Ce midi, nous avons le plaisir d'accueillir à bras ouverts Monsieur Harry Habitant.
Bravo.
11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Bonjour Harry Habitant.
Bonjour Anne Roumanoff, quel plaisir, vraiment.
Depuis que vous êtes rentrée dans le studio, les femmes n'ont de yeux que pour vous, vous vous rendez compte?
Oui. Mais regardez. J'ai pas vu. Ils sont où les yeux? J'ai pas vu.
Ils sont où les yeux?
Totalement oublié.
Vous rendez compte de l'effet que vous faites aux femmes?
Non, alors là, vraiment pas.
Non, c'est vrai?
Non, pas du tout. Non, mais c'est toujours très agréable en même temps. Mais en général, on ne choisit pas ce métier pour ça. Comique, c'est toujours compliqué quand t'es comique.
Pour un mec, c'est plus facile.
Non, femme qui rit.
Oui, mais à moitié, mais j'ai plein de moitiés.
C'est l'autre moitié qui est difficile.
C'est l'autre moitié qui n'est pas, pas facile.
Alors que homme qui rit, à moitié hors du lit. Donc c'est aussi l'autre moitié. Harry Habitant, vous êtes né à Paris, mais vous êtes un petit banlieusard de Sarcelles, ville multiculturelle de banlieue, longtemps administrée par Dominique Strauss-Kahn. Et vos parents ont fait comme la plupart des Parisiens quand ils ont des enfants, ils ont traversé le périph' pour avoir plus grand. Fallait beaucoup de mètres carrés pour vous contenir, Harry Habitant.
C'est exactement ça. Pourtant, on n'était que deux. Hein. J'étais qu'avec ma sœur, mais il nous fallait un petit peu plus d'espace. Ouais. Je criais, je dansais tout le temps, toute la journée.
J'imagine qu'enfant, ça devait être hyper actif, non?
Complètement. Ma mère me disait on pouvait aller chez personne.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que quand on allait chez la famille, quoi, c'était tu viens avec Harry? Ben oui, tu veux que je le laisse? Et j'arrivais. Dès que j'arrivais, la famille regardait la télé, j'éteignais la télé tout de suite. Pour dire genre, regardez-moi quoi, ça voulait dire ça. Genre, attention, j'arrive.
Et après?
Plein de conneries, j'arrivais avec des cadenas. Et je cadenassais les lacets de mes oncles. Ouais.
Ah ouais?
Ah ouais, c'était formidable. Hein. J'ai toujours des petits cadenas d'ailleurs. Là.
Alors vous êtes issu d'une famille maroco-tunisienne.
Ouais.
Votre père, Albert.
Mon père Albert Habitant, oui.
Marocain et votre maman Marlène tunisienne.
Exactement. Ouais.
Comment ça se passait? Il y a des différences entre les Marocains et les Tunisiens?
Énormément. C'est vraiment.
C'est quoi les différences?
Différences culinaires, différences culturelles, différences de caractère, différences d'éducation. Moi, toute ma vie, j'ai entendu des histoires que sur regarde Marocain et regarde les Tunisiens et regarde que toi comment tu es. C'est fou, c'est magnifique.
Donc les Marocains disent du mal des Tunisiens?
Je sais pas. En tout cas, ma mère disait du mal de mon père. Et... Bon voilà, c'était des querelles d'amoureux, qui ne sont plus d'ailleurs parce qu'ils sont divorcés. Oui, parce que mon père...
Ah oui ?
Mon père, c'est le seul père au monde qui a tout voulu faire comme son fils. C'est-à-dire qu'il a voulu divorcer en même temps que moi. On s'est retrouvés célibataires.
Ah, il a divorcé très tard.
Ouais, il a divorcé après 40 ans. C'est un truc qui n'a aucun intérêt.
Et elle s'y attendait ou pas, votre mère?
Ma mère, pas du tout. Elle m'a dit, mais il est où?
Il n'est pas rentré, je
crois.
Mais
c'est à cause de vous, c'est votre mauvaise influence?
Non, alors ça, c'est ma mère qui veut me faire croire ça. Et tu sais, la culpabilité, mais moi, c'est à cause de vous. Hein.
Mais la pauvre, au bout de 40 ans, comment elle a trouvé un nouveau mec, votre mère?
Pas pour l'instant, pas à ma connaissance, mais.
Et votre père?
Mon père, ouais, on s'est retrouvé célibataire en même temps, donc il venait en boîte avec moi.
Mais
enfin,
non.
Il me rejoignait en boîte. Et genre, il allait en boîte après 40 ans qu'il a, il a plus été en boîte. Donc il s'habillait tout en blanc. On dirait un coton-tige qui arrive vers moi. Il draguait. Vous savez qui je suis? Je suis le père d'Harry Habitant. Une femme, elle lui a dit « Ah ouais, je peux pas le voir. »
Harry Habitant, vous avez vendu des fruits et légumes sur le marché de Sarcelles?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je vendais plein de choses au marché de Sarcelles et je travaillais en face d'un gars qui vendait des fruits et légumes.
Mais il l'aidait.
Et je l'aidais.
Non, mais vous vendiez quoi?
Je sais pas, des habits, j'avais 17-18 ans, quoi.
D'accord.
C'était des
Et il y avait un mec qui vendait des fruits et légumes
en face
de vous?
Il vendait des clémentines, ouais. Et
des
en fait,
clémentines.
J'adorais, parce que ma passion, c'est de crier, vous savez, Normanov. Et j'entendais le gars dire, allons-y dans la clémentine, Et à la fin, je gueulais très fort, comme ça, allons-y dans les poireaux, la clémentine, Les gens m'achetaient rien.
Ça veut dire
à
quoi?
La goutte.
À la ça veut
goutte.
Dire quoi, la goutte?
À la goutte, c'est-à-dire que t'as le droit de la goûter, la clémentine, avant de l'acheter. Ouais. Allons dit dans la clémentine, 10 balles le kilo.
Ouais.
Les gens m'achetaient rien que pour je faire ma gueule. Hein.
Alors, vous n'avez pas été très assidu à l'école, Harry Habitant, et pour gagner vos dues, vous donnez taxi comme votre papa à 20 ans. Vous avez été un des plus jeunes taxis de France.
J'étais chauffeur de taxi la journée, et le soir, j'ai écumé les cabarets de Paris. J'avais 10-20 minutes de sketch, et que je jouais un peu partout. Je garais le taxi.
Il y a cette fameuse anecdote, vous aviez une cassette audio de vos sketchs, et vous les faisiez écouter aux gens dans le taxi pour voir s'ils rigolaient.
Non, en leur faisant croire que c'était Rire et Chanson.
Et ils rigolaient ou pas?
Ils entendaient très mal. Il y avait la voix de ma mère qui disait « Viens manger !» J'avais envie de monter sur scène. C'est comme une survie. J'avais envie d'écrire, de jouer. J'avais
donc,
envie de ça.
Donc, il y a eu des spectacles. Et il y a eu ce carton du film « Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu ?» 12 millions de spectateurs. Ça a changé votre vie, Harry Habitant.
Oui, bien sûr. Mais c'est un miracle. C'est plus que ça. Hein. 12 millions et demi en France, 20 millions... dans tout le monde entier.
Les gens vous en parlent dans la rue, Harry Habitant ?
Oui, régulièrement.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Rien, merci, c'était super, on s'est régalé. Et on s'est aperçu, quand on a tourné ce film dans toute la France, que beaucoup de familles françaises vivaient ça, en fait. Ça a été une rencontre incroyable avec le public, avec ce film.
Ouais. Vous êtes un grand fan du PSG, depuis toujours ou juste depuis qu'il gagne ?
Regardez, c'est simple. Hein. Mon père donc, est chauffeur taxi depuis 1978. Je vais au Parc des Princes depuis à peu près 84.
Il avait une astuce pour faire entrer votre père.
Exactement. Je travaillais toute la journée avec lui.
Votre père en taxi ?
Avec mon père, donc j'étais devant. J'avais 10 ans. J'avais ce bonheur de travailler avec lui.
Vous étiez là, il vous gardait dans le taxi.
Mais il me disait, viens travailler avec moi. Il fallait que je passe la conversation avec
les
gens derrière. Et j'avais le pourboire. C'était moi qui récoltais tous les pourboires. Et ça, c'était incroyable. À partir de 17h, on allait manger une crêpe sur les grands boulevards. Cette crêpe au sucre, je la mangeais jusqu'au Parc des Princes. Arrivé au Parc des Princes, il me dit, passe derrière maintenant. Donc je passais derrière sur la banquette arrière parce qu'on arrivait devant le barrage, la sécurité. Et en fait, il disait au gars de la sécurité, je dois rentrer à l'intérieur pour arriver le plus proche du Parc des Princes au parking. Il y a son père qui m'attend là-bas. Donc le petit, il faut absolument qu'il aille rejoindre son père. Et moi, avec ma crêpe aussi comme ça, j'ai dit oui. Et on passait tous les barrages et on avait notre place pour le Parc des Princes. C'était des souvenirs inoubliables.
My Story, j'ai mis 42 ans et 6 mois à l'écrire, c'est moi en autodérision.
Oui, je n'ai fait que vivre ma vie, la raconter. C'est
un spectacle plus personnel que celui d'avant.
Oui, le spectacle d'avant, je me cachais un peu derrière des personnages, mais je parlais de moi en fait, c'était des gens dont j'avais peur.
Là, vous y allez, vous parlez de vos parents, de votre divorce, vos filles, tout y passe.
Voilà, c'est ça.
Qu'est-ce que vous racontez sur le divorce, Harry Habitant ?
Je raconte que ma mère a tenu absolument déjà à assister à mon jugement de divorce, et qu'au moment où le JAF a prononcé « Monsieur Habitant, vous êtes maintenant officiellement divorcé », ma mère elle s'est levée, elle a regardé tout le monde et elle a fait « Oui !»
Non mais ça, c'est pas vrai. Vous avez 3 filles, Harry Habitant ?
Oui.
Elles adorent leur papa, j'imagine ?
Ouais, j'espère.
Ouais, et vous dites que ça fait beaucoup de sacs à main, d'ongles, de maquillage, de shopping.
Ouais, et beaucoup de... Je sais pas, j'ai l'impression que les filles, elles ont du mal plus à se lever. Ce matin, par exemple, la petite, non, mais le réveil ne sait pas le... Mais pourquoi toi, ton réveil, à toi seulement ?
Mais là, c'est les vacances, là.
Non, c'est pas les vacances.
Mais si, c'est les vacances.
Ah, si, on l'avait réveillé
pour
rien.
Faut arrêter de les emmener à l'école.
C'est pour ça.
Faut arrêter de les déposer le matin, ils ne les prendront pas.
Mais non. Vous l'avez réveillé en pleine vacances ?
Vous n'avez pas vu qu'il y avait moins de devoirs en ce moment ?
Oui, j'ai réveillé, j'ai dit, après j'ai claqué la porte. Mais en fait, c'est les vacances. C'est pour ça, c'est incroyable, je sais.
Vous dites que vous essayez d'être un papa rigoureux quand même ?
Je vois ça,
Jean-Philippe Vizini, vous avez des choses à dire à Harry Habitant ?
Oui, parce qu'on a finalement, on a plus ou moins le même parcours, Harry, et c'est vrai. Hein, plus ou moins. On a commencé le One Man Show en même temps, vous vous souvenez, Harry ?
Tu cries aussi fort que lui, par contre.
C'est pour ça qu'on se lui.
Mais il est pas tunisien pour toi.
Non, c'était en 2009 au petit Palais des Glaces. Vous vous souvenez, Harry ?
Bien sûr.
À cette époque-là, je me rappelle, je venais au théâtre en bus. Il y avait plus de monde dans le bus que dans le théâtre. Alors ensuite, vous êtes parti faire le tour de France pour remplir les plus grandes salles. Et moi aussi, j'ai fait le tour de France. Mais j'étais dans la caravane du tour, moi. J'étais au stand Cochonou. Je distribuais des saucisses déguisées en cochon. Pour vous, ça a été le cinéma. Voilà, le cinéma. Vous avez joué dans Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? L'histoire d'une famille qui a du mal à accepter son gendre. Moi aussi, ma belle famille, elle a eu du mal à m'accepter.
Tu m'étonnes.
Je me rappelle, quand on leur a annoncé qu'on allait se marier, ma femme, bonjour papa, bonjour maman, moi, bonjour beau papa, bonjour belle maman, eux, bonjour ma fille, bonjour Trouduc. Ma femme, alors, on a une grande nouvelle à vous annoncer. Hier, on a été au cinéma et en sortant, Jean-Philippe m'a demandé en mariage. Ah bon ? Vous avez été au cinéma ? Ensuite, vous avez joué dans Les Visiteurs 3, La Révolution. Vous aviez le rôle de Lorenzo Baldini, marquis de Portofino. Et ben moi aussi. Les gens ne le savent peut-être pas, mais j'ai joué dans Les Visiteurs 3. un petit rôle là. À un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, il y a une scène en arrière-plan avec des figurants déguisés en paysans qui tirent un âne. Alors, on me reconnaît pas parce que j'étais bien déguisé, mais c'est moi qui faisais le rôle de l'âne. Vous avez joué ensuite dans Débarquement immédiat, l'histoire d'un flic de la police des frontières qui ramène un gars dans son pays, sauf que c'est pas le bon gars et c'est pas le bon pays.
Exact.
Moi aussi, il m'arrivait un truc pareil. L'autre fois, je suis allé chercher ma femme au boulot pour l'emmener au resto. Et ben, je me suis gouré, c'était pas la bonne femme. Mais j'ai eu de la chance parce que c'était le bon resto. Ah, vous voyez, Harry Habitant, on a plus ou moins la même vie, donc j'ai une question à vous poser. Vous comptez faire quoi en 2019? C'est juste pour savoir ce qui va m'arriver.
Alors, Harry Habitant, il paraît qu'à Sarcelles, des fois, vous y avez des bagarres.
Des bagarres?
Oui, et que vous échappiez aux bagarres en faisant des roulades. C'est quoi cette histoire?
Non, c'est-à-dire que j'ai... Oui, évidemment, on était dans une banlieue où, parfois c'était un petit peu compliqué. Mais non, moi, mon moyen de communication, c'était toujours de faire rire, en fait. C'était la charriade. Et quand il y en a un qui voulait se bagarrer, j'ai dit d'abord, on fait une roulade. Voilà, n'importe quoi. C'était pour calmer le truc comme ça tout de suite. D'ailleurs, quand on m'a proposé le bon Dieu, c'était un peu une Madeleine de Proust pour moi, d'être en bas de la tour avec tous mes potes multiculturels.
C'est ce que vous aviez vécu en vrai?
C'est exactement ce que j'ai vécu, ouais.
Léa Landau a des petites questions à vous poser.
Oui. Je vous en prie, Léa Landau.
Harry Habitant. Alors, c'est vrai que quand je dis à mes copines, je reçois Harry Habitant. Alors, Claude Lelouch, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, My Story. Il est sur tous les fronts. À chaque fois, elles me disent, mais sauf le mien. Sinon, ça voudrait dire que nos lèvres ne seraient plus qu'à quelques centimètres. Vous en faites rêver des femmes, Harry Habitant. Alors, j'avais préparé plein de questions. Puis, je me suis dit, non, plutôt que de préparer moi-même des questions, je vais lui faire une interview. Qu'est-ce qu'on a fait au bon vieux pote? En demandant à ses potes de poser eux-mêmes des questions. L'un s'appelle Noam Diawara, l'autre Frédéric Chaud, et enfin, le dernier, Mehdi Sadoun. En résumé, vos trois acolytes de qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu. Donc vous êtes obligé de répondre à toutes les questions. Prêt, Harry Habitant?
Allons-y.
On commence avec Mehdi Sadoun.
Harry, mon frère, est-ce que tu peux raconter l'histoire de la fille à qui j'ai demandé mon chemin quand j'étais en voiture à Djerba? Je te laisse faire.
À Djerba? Il m'a raconté un truc magnifique. Il était à Djerba en voiture et puis non, il demande à une Tunisienne, une très belle femme, tu vois, avec un petit accent. Donc il lui dit comment je fais pour rejoindre l'hôtel? Alors il dit c'est très simple, vous allez toujours tout droit. Et après, il y aura un feu rouge. Et là, pour lui dire tout droit, il lui dit « Et au feu rouge, vous faites « Drrrr !» Ça m'a tué de rire. C'est-à-dire que le naturel est revenu, tu vois. Il a voulu lui dire « Bon, ça m'a tué de rire, ça m'a fait rire. »
Oui, il vous a laissé un petit message, Mehdi Sadoun. Et après, on passe aux questions de Noam Diawara.
Je voulais juste te souhaiter un gros merde pour ta tournée, pour ton spectacle. Parce que t'es mon frère et parce que tu déchires et parce que t'as le cœur que... Que tous les gens, ils ont besoin qu'il faut avoir pour le bonheur et le bon dans la vie. À bientôt, mon frère. Et bonjour à tous.
Merci, Mehdi.
C'est une amitié très forte, vous et Mehdi Sadoun, Harry Habitant.
Oui, on s'aime beaucoup. Il y a quelque chose de très fraternel, de... Comment vous dire? Chaque fois qu'on se voit, on se prend dans les bras, on s'embrasse, on dit des conneries.
Vous pourriez peut-être faire un spectacle tous les deux, vous n'avez pas pensé?
Ouais, j'adorerais déjà que lui monte sur scène. Il a un immense talent, il me tue de rire. C'est quelqu'un de vraiment très talentueux.
Alors, on continue avec Noam Diawara.
Harry, te souviens-tu de la cantine de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 1 et de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2? Quelle cantine tu préférais et pourquoi?
Évidemment, je crois que je préférais celle de la 2. Bon, la cantine de la 1, non, c'était une anecdote où en fait, le gars, quand il nous servait l'assiette, et il nous aimait beaucoup, alors il était un petit peu nerveux, il mettait les 4 doigts dans l'assiette pour se servir comme ça. Genre, il est arrivé, il t'a dit, voilà, c'est à vous, merci.
Les 4 doigts,
gras. Ouais, comme ça, ouais, 4 doigts. Après, il t'a dit, vous voulez de l'eau? Oui, bien sûr.
Les doigts dans le verre.
Les 2 doigts dans le verre. Bon, c'est pas très radiophonique, mais bon.
Frédéric Chaud aussi a quelques questions à réhabitant.
Oui. Quelle est ta réplique préférée dans le film et ta vanne préférée dans ton spectacle?
Ah bah dans le film, c'est simple, hein. C'est quand je lui dis dans les 2 films « Suce-boule en chef
». Suce-boule en chef.
Ouais, dans le 1, ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, il veut raccompagner Clavier et Chantal Lobby, il veut à chaque fois leur faire des courses, alors on le traitait en tant que les beaux-frères en disant « Suce-boule en chef ».
Et dans le spectacle, votre réplique préférée à quel temps?
Après mon divorce, donc j'ai essayé de retomber amoureux et puis j'ai provoqué un peu des rencontres, quoi. Et j'ai provoqué peut-être un peu trop de rencontres. Et je me souviens qu'on était au mois de janvier, un pote m'a dit « Alors t'en es où niveau femme ?» Je lui dis « Je suis complet jusqu'à fin juin.
» Bonjour Agathe Le Caron.
Bonjour Anne Romanoff.
Agathe Le Caron, vous êtes journaliste, animatrice de radio, de télévision, et vous venez de publier un livre, Papa, Maman, on joue à quoi ?
Alors, oui.
C'est parce que vous avez deux enfants ?
C'est parce que j'ai deux enfants et que j'aime pas jouer avec eux. Donc à un moment...
Non, c'est sympa, c'est honnête.
Voilà, je suis une très mauvaise mère. Non, c'est vrai que ça m'ennuyait terriblement de jouer avec mes enfants. Donc je me suis dit, il faudrait quand même essayer de trouver, un grimoire quelque part où on propose des activités qui soient à la fois sympas pour les enfants et pour les parents. Et puis plutôt, si on peut, un peu intelligente. Et puis finalement, j'avais tout en moi. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Voilà, non, mais du coup, j'ai un peu fouiné et tout. Et puis j'ai essayé de faire une bible d'activités.
Ils ont quel âge vos enfants là ?
2 et 4. Ah oui, ah oui. Mon visage. Ah ouais. J'ai jamais été aussi heureuse de faire de la radio aujourd'hui. Je sais pas si vous avez vu la tête que j'ai.
Mais non,
vous avez pas dormi ?
Pas du tout.
Je n'ai pas dormi. J'ai tous les trucs en hit en ce moment : trachéite, bronchiolite, pharyngite, tout ce qui est en hit, otite.
Oui.
Ah ouais, beat.
J'en ai un autre. Ouais. Je me censure depuis le début. Ça n'est pas trop qui le sort.
Malheureusement, c'est le seul truc en hit que j'ai pas eu récemment.
Ça reviendra.
Mais tout le reste, ça reviendra. J'ai espoir.
Il paraît que vous avez pris 26 kilos pendant vos grossesses.
À 26 et 20.
Ouais. Ah oui, vous ne faites pas les choses à moitié.
Non, je ne fais pas les choses à moitié. Il faut dire que j'ai énormément mangé de raclette, ce qui est interdit d'ailleurs pendant la grossesse.
Ah bah ouais.
Ah bon ?
Et j'ai profité. Moi, c'était une parenthèse enchantée. Et donc, je me suis dit, profitons.
Bah ouais. On a une bonne excuse pour prendre du poids.
Mais exactement. Mais après, comment vous avez fait pour le perdre ?
Non, alors, ce qui était terrible, c'est que pour mon premier accouchement, j'ai accouché un vendredi. Le lundi, je vais chez mon gynéco. Il me pèse. Il me dit, bon, bah, 79 kilos. Il me dit, mais vous inquiétez pas, hein, c'est pas grave. Vous allez en perdre au moins 10 avec le placenta, le bébé, le stress et tout. Pas de problème. Je rentre chez moi. Donc, le dimanche qui suit mon accouchement, 84,5 kg. Je suis la seule femme qui accouche et qui prend 5 kilos. Alors là, je pense que j'ai pris
en une semaine en plus.
Non, parce que la dernière semaine, j'ai dû prendre à fond.
Ouais.
Et puis du coup,
mais moi, ça m'avait fait ça parce qu'on m'avait dit vous allez accoucher d'un instant à l'autre. J'avais fait attention toute ma grossesse. J'avais pris 10 kilos, donc quand même bien pour quelqu'un de très
qui est raisonnable.
Et après, elle m'a dit vous allez accoucher d'un instant à l'autre. Et j'ai eu une semaine de lâchage total, puisque je devais accoucher d'un instant à l'autre. J'ai mangé des frites, des tartes au citron, des gâteaux au chocolat. Ouais. Et j'ai dû prendre 5 kilos la dernière semaine.
Oui, c'est ça, mais comme moi.
Et donc, ce livre, Papa, Maman, on joue à quoi ? Ça donne des idées. Mais vous savez qu'après, je vous assure que les enfants grandissent, ils veulent plus du tout jouer avec vous.
Je sais, mais nous non plus, c'est ça qui est bien. Nous, on se sent libérés aussi un peu. Et donc, l'idée, c'était quand même de se dire, bon, plutôt que de les mettre devant une tablette ou devant un dessin animé, essayons de trouver des choses qui ne soient pas trop ennuyeuses. Et...
Alors, on part de quel âge à quel âge ça
à partir de... Il y a des activités à partir de 18 mois même.
Et puis, c'est ça pour les bébés, parce qu'appareil photo en poivron, dès 9 ans, ça ne va pas, non ?
Ouais, c'est ça, non, mais tu m'as bien regardé.
Je mets un iPhone. Ouais, c'est quoi un appareil photo en poivron ?
Ouais, en fait, en faisant l'émission que je faisais avant, On n'est pas que des cobayes, on avait fait une expérience et je m'étais rendu compte qu'on pouvait faire des appareils photo dans tout. Du moment qu'on peint en noir et ça acquiesce dans le public, parce que monsieur apparemment est scientifique. Regardez,
mais ça prend pas des vraies photos, ça quand même.
Si, avec des poivrons.
Ça prend des vraies photos, mais après, il faut
c'est un peu pixelisé, mais bon.
Non, mais faut faire la petite chambre noire à la maison.
Le yoga des animaux, ça c'est vrai que c'est très bien. Les enfants,
ils adorent.
Quand vous avez plusieurs enfants chez vous, ils font du bruit, on fait une petite séance de relaxation, on ferme les yeux.
Ils adorent faire comme les parents surtout, donc ça c'est vachement sympa.
Ils adorent, vous allez voir, c'est encore une fois au début.
Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Pour le moment, j'ai encore plein d'espoir. Il y a des trucs aussi.
Il y a un truc qui marche bien aussi, c'est de dire on va faire un gâteau. Ça c'est pas mal.
C'est ça. Ouais, et ça je le fais parce que comme ça ils peuvent touiller, ils en mettent un peu partout, ils sont contents. Dans l'idée à la base.
Et on va faire la vaisselle parce que moi c'est pas le problème, c'est le gâteau, c'est la vaisselle derrière. Après faut tout que.
Moi pour le moment mes enfants sont à un âge où ils aiment bien m'imiter, donc ils aiment bien que je leur donne des responsabilités.
Ils sont encore à un âge où ils vous admirent, Agathe Le Caron.
Voilà, et ça non plus ça ne va pas durer. Ils auront bien conscience que j'ai un physique un peu particulier, comme vous pouvez le voir aujourd'hui.
Mais vous rigolez, vous êtes une très belle femme.
Bah, vous êtes adorable, Anne, mais vraiment ce matin, il faut que j'aille voir un chirurgien esthétique.
Mais non,
Merci. Demandez à Anne, elle a une belle adresse.
Vous êtes dure avec vous-même, Agathe Le Caron.
Pourquoi vous rigolez comme
c'est eux qui rigolent.
Mais vous plaisantez, je n'ai jamais rien fait.
Mais il rigole à la blague d'avant, il a une blague de retard.
Cela dit, je me pose des questions parce que hier j'ai été chez le coiffeur. Elle me regarde, elle me dit. Anne, tu devrais faire du Botox.
Non. Elle est sympa, ta coiffeuse.
Ah oui, il faut changer de coiffeur immédiatement.
Mais ouais.
On va quand même.
Moi, je me suis dit, je vais peut-être faire des gros travaux plutôt que des piqûres.
Mais non.
Je suis là-dedans en ce moment. Un petit lifting du bas du visage.
Mais vous êtes très bien.
Je sais pas, je suis là-dedans. Mais non,
l'homme que vous aimez ne vous rassure pas.
Non, l'homme que j'aime me dit si jamais tu fais quoi que ce soit, je pars. Bah, ouais. Je le fais à face discrétos quand il est pas
mais
là.
Mais si vous le faites discrètement et qu'il n'y a pas de différence, ben, ça sert à rien. Ouais.
Ça sert. Non, mais il faut qu'il me dise, mais c'est incroyable.
Si vous voulez, moi je vous le fais, hein, je vous mets un peu de crème Nivea pour 1500 balles.
Donc ce livre, Papa, Maman, on joue à quoi ? Plein d'idées pour jouer aux enfants. On jardine ensemble, mais là, il faut avoir un jardin quand même.
Non, parce que justement, il y a des petits trucs d'appartement. Par exemple, j'ai imaginé un terrarium d'appartement.
Ouais. Pour faire pousser un bel avocat bio, 3 allumettes, un pot de confiture, et on fait pousser. Oui, ça, je l'ai fait, moi, ça.
Il est mort.
Non, ça marche jamais vraiment, mais on peut faire pousser des lentilles avec du coton.
Ça met vachement de temps, surtout, à faire pousser l'avocat. Ce qui est sympa, c'est de faire pousser.
C'est comme ça que vous avez perdu du poids, en attendant.
C'est ça, j'ai pas mangé, j'attendais de le manger, cet avocat.
Attendez que l'avocat il pousse pour manger un peu.
On va en visite, on va au musée. Alors,
non, mais ça, c'est pour stimuler les enfants. Si les parents ont envie d'aller au musée, ce qui est mon cas très fréquemment. Non, du coup, c'est essayer de leur donner des petits trucs pour les stimuler, parce qu'ils ont jamais envie d'aller au musée quand ils ont 4-5 ans, ça les ennuie. Donc on leur dit, mais attends, on va noter des trucs, tu vas faire comme la statue, tu vas essayer de repérer tel truc dans tel tableau. Donc il y a aussi plein d'idées auxquelles on pense pas forcément.
En fait, c'est des idées pour manipuler les enfants.
Oui,
en fait.
C'est ça, exactement, pour qu'ils soient notre botte.
Il y a le blanc de Meudon sur les vitres, donc comme ça c'est de la peinture, et en plus ça leur fait nettoyer les vitres.
Oui, c'est ça, parce qu'ils peuvent être des petits chaouches aussi, c'est pas mal. Le blanc de Meudon, c'est génial, parce que c'est hyper facile à faire, ils peuvent dessiner sur les vitres, et c'est ce qu'on utilise pour nettoyer les vitres. Donc c'est génial. Après, ils frottent et les vitres.
Ah, puis c'est pas dangereux en plus quand vous habitez au 8e étage, là, le gamin en équilibre sur la chaise. Maman,
il joue, j'y arrive bien. Il joue.
Le savon surprise.
Alors, savon surprise.
Ah, je l'ai fait avec ma femme, elle a beaucoup aimé.
Non, mais une petite figure.
J'ai pas compris.
Moi non plus, j'ai pas essayé de relever.
Je préfère
c'était un truc dans une baignoire. Non, mais continuons l'émission.
Mais non, ça m'intéresse. Non, dans une baignoire,
on était dans la baignoire et. Est-ce que c'est ton savon? Non, mais. On était sur un truc assez enfantin, c'était sympa. J'ai tout gâché.
On peut savoir ce que c'est vraiment que le savon surprise.
Alors, le savon surprise, on met une petite figurine dans de la glycérine et du coup ils se lavent les mains pour avoir la figurine comme des potes idées. Donc on les pousse un peu à se laver les mains.
Comment vous faites pour introduire la figurine?
Moi je dis rien. Moi je rebondis plus du tout.
On fait fondre la glycérine qui va se solidifier ensuite à l'air libre dans un moule. Ouais, un moule fine, souple. C'est que des trucs très simples à faire.
Tatouage éphémère, bon, ça on comprend, avec des stylos billes à encre gel.
Voilà.
Mais c'est quoi votre truc préféré alors?
Moi, c'est horrible, mais ce que je préfère, c'est l'activité qui est jouer à rien. Parce que je trouve que c'est super, en fait, de pousser ses enfants à ne rien faire.
Absolument. Moi, quand ils me disent « je m'ennuie », je dis « c'est très bien ».
Voilà. Donc,
mais pourquoi ils devraient tout le temps être en... Et je leur dis, c'est quand on s'ennuie qu'on devient créatif.
Exactement.
Et qu'on souffre. Il faut souffrir. Je leur dis, si vous êtes trop heureux dans votre enfance, après, vous souffrirez que vous serez adulte. Donc, c'est bien d'être un peu malheureux.
Je suis assez d'accord avec ça, cela dit.
Parce qu'on ne peut pas toujours éviter toutes les souffrances à ses enfants.
Non,
la vie est difficile, on se prend des claques dans la gueule, on a des déceptions, on souffre.
J'ai l'impression que vous n'avez pas trop le moral.
C'est dur en ce moment.
C'est ça. Tu joues avec tes filles, toi?
Quand elles étaient petites, oui.
À quoi?
Moi, je jouais, j'adorais, mais ça m'amusait plus elles que moi. C'était une étagère. On prend une étagère, on fait une maison de poupée à l'intérieur.
Ah mais ça c'est génial.
Donc on construit tous les meubles en réduit avec par exemple tu mets 2 boîtes d'allumettes, ça fait un tiroir, tu les peins, tu fais un lit, tu vois tout ça.
J'aurais adoré avoir des filles pour
ça. Je fais en papier d'aluminium un miroir.
Génial.
Et là il y a 2 ans je me suis retrouvée avec des gamins, des gamines, mes nièces. Et j'ai passé 3 jours à faire ça, mais elles étaient à la fin, j'en avais marre.
En fait, tu jouais toute seule à la fin.
Pratiquement.
Ah, ça, c'est génial.
Vous avez des garçons alors, Agathe?
Bah oui, 2 mecs.
Ouais. Ah ouais.
Je suis ravie. Hein,
oui, mais alors c'est bien parce qu'ils vont tout le temps aimer leur maman. Vous serez toujours la femme de leur vie.
Bah, jusqu'au moment où ils vont en rencontrer une. Donc, c'est ça le problème. Les toujours... pièces rapportées, c'est
oui, mais ça.
Ça
durera pas. L'amour ne dure jamais. Alors que l'amour d'une mère, oui.
Je sais pas. Il faut qu'ils aient une bonne belle fille. Mais pour ça, il faut que je les élève bien.
Mais oui.
Hein, il faut que la fille soit drôle. Il faut qu'elle soit sympa.
Ouais.
Ah ouais.
Ouais, faut qu'elle
fasse. Non, attends, c'est bon. Hein, je laisse pas mon gosse à ta mère.
Ouais.
Ça.
Je suis sûre que vous serez une super belle mère, Agathe Le Caron.
Bah, je ferai tout pour.
Elle n'a pas intérêt à m'emmerder quand même. Ouais.
Mais alors, le petit de 4 ans, il a déjà une fiancée, ça commence tout à l'école maternelle.
Mais non, pas du tout. Il me dit qu'il n'aime pas les filles. C'est horrible. Ah. J'essaye de bien l'élever parce que je baigne dans une émission féministe. Donc, j'essaye de transmettre des préceptes féministes à mon enfant et ça ne marche absolument pas.
Qu'est-ce qu'il n'aime pas chez les filles ?
Il dit que c'est nul. Que c'est
on, a tous dit, on a tous dit ça quand on était petits garçons.
Mais oui, mais c'est ça qui ne va pas.
Tous. Moi, je n'aimais pas les filles non plus.
Et elles te le rendent bien.
Tu sais quoi ? En football, je viens de te faire une passe décisive. Parce que vraiment, c'était le truc le plus facile. Ah, bah oui.
Non, donc voilà. Non, il joue pas avec les filles, il n'y a aucune copine fille, je suis désespérée. Ouais. Mais ça va changer.
Oui,
mais
ça,
oui,
va, changer.
Oui, ça va changer. Agathe Le Garon, on peut vous retrouver à la télé ?
Sur France 5, tous les matins à 9h20 dans la maison des maternelles. Voilà, avec des conseils très très sérieux et pas du tout sérieux.
Toutes les animatrices de cette émission sont devenues des stars. Et vous, alors maintenant, après, ouais, des prime time
Mais je sais pas, parce que moi j'ai 44 ans, elles avaient 10 ans de moins. Donc,
oh, mais voilà.
Vous n'êtes pas vieille.
C'est gentil. Non. C'est peut-être pour ça que je pense chirurgie esthétique.
Ah. Mais non, surtout pas. Surtout pas.
Vous non, allez... non, je vais travailler sur moi. Peut-être le psy avant le chirurgien. Non
mais vous savez que c'est jeune, 44 ans. Ouais, regardez-moi, oui. Quel âge vous me donnez ? 35 ?
Oh bah, ouais. J'aurais même pas dit ça.
Et encore ?
Et en fait, j'ai 53 ans.
Bon, non, non.
Wow.
C'est,
oh,
pas
dire.
C'est pas vrai.
Mais on ne pensait pas.
Ouais.
Hein?
Impossible.
Vous n'arrivez pas à le croire.
Oh, je n'arrive pas à le croire.
Je vous trouve tellement sympathique, Agathe Le Caron. Notre invité est un des maîtres de l'horreur, le fils caché de Stephen King et de Edgar Allan Poe, celui qui a vendu plus de 7 millions de livres et qui est traduit dans 15 langues. Monsieur Maxime Chattam est notre invité.
11h30, Anne Roumanoff, ça fait du bien sur Europe 1.
Bonjour Maxime Chattam.
Bonjour. J'adore cet accueil.
On est dans un train fantôme.
Ça, c'est une musique que vous aimez beaucoup.
Oui, ça fait partie des musiques de films que j'écoute quand j'écris. Je trouve que la musique...
mais
cas,
ça fait peur déjà.
Oui, mais en fait, ça renforce le cocon de concentration. Et à la lecture aussi, c'est pour ça que je préconise, quand on lit un de mes livres, d'écouter certaines de ces musiques que je cite en début de livre. Elles sont pratiques, elles vous aident, je trouve, à vous concentrer.
Donc là, votre dernier vient de sortir, s'appelle Le Signal. C'est carrément un livre d'épouvante, on est terrorisé à chaque page.
Je ne sais pas si c'est à chaque page. Ouais, l'idée, c'est de s'amuser, à se faire peur. Vous savez, on aime tous, de temps en temps, regarder un petit film, avoir des frissons, faire un manège, etc. Bah, c'est l'idée de le faire avec la lecture. Là, vous pouvez vous faire peur à votre rythme, mais l'idée, c'est quand même de se mettre le soir, un tout petit peu de lumière, le lire tranquillement, si possible, le plus seul possible, et vous laisser embarquer par le récit.
Moi déjà, je regarde Pirates des Caraïbes, je suis pas bien, alors imagine.
En plus, les pages de votre livre sont bordées de noir, donc vraiment...
Ouais, c'est quelque chose auquel je tenais, j'avais envie de lui donner un habillage qui était à la hauteur du contenu, c'est-à-dire un habillage sombre, tout simplement.
Pourtant, quand on vous voit comme ça, Maxime Chattam, avec votre allure de premier de la classe, on a du mal à vous imaginer en serial writer d'histoires qui font peur.
Ah, mais vous imaginez pas que j'ai des tatouages et des piercings sur tout le corps, peut-être.
Ah bon?
Ça y est.
C'est vrai.
J'ai éveillé un regard.
Ah, je veux voir. Hein.
Alors, après avoir tenté de devenir comédien, vous avez été libraire à la FNAC.
Ouais, ouais, ça c'était un bon souvenir.
Donc, vous avez fait après des études de criminologie.
Ouais, ça c'était sympa aussi. Disséquer des corps.
Ah,
vous avez disséqué des corps vraiment?
J'ai eu le plaisir de pouvoir faire ça en France et
le
aussi
plaisir
un peu.
De...
Ouais, aux États-Unis.
Mais parce qu'elle est végane, hein, ça lui fait beaucoup. Hein.
Non, je parle de plaisir parce que quand vous êtes curieux et que c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est assez fascinant. Je vais vous donner une anecdote abominable. Les autopsies, la plupart de celles que j'ai faites étaient très tôt le matin. Et je peux vous dire que quand vous sortez d'une autopsie, la première chose que vous avez, c'est faim.
Ah oui.
Et faim de viande rouge.
Faut consulter un monsieur.
Ouais, mais je me suis fait du souci pour moi.
La médecine forcément une solution pour vous.
Et j'ai posé la question un jour à un ami légiste qui m'a dit, écoute, c'est pas anodin, ça t'est arrivé assez souvent, et c'est simplement un atavisme, c'est-à-dire qu'on a été pendant 300 000 ans des chasseurs qui avons mangé de la viande parfois crue. C'est simplement le cortex reptilien qui répond.
On est en train de perdre Christine.
C'est très intéressant.
Elle est pas malaise vagale.
Mon doigt, Christine.
Alors on a le plaisir de vous recevoir ce matin.
Le plaisir vraiment.
Oui. L'occasion de la sortie.
On est intrigué en tout cas.
Votre nouveau roman, Le Signal, 23e roman publié chez Albin Michel, 740 pages pour un prix de 23,90 €, ce qui met la page à 0,032 centimes d'euros. C'est très raisonnable.
Ah. Ça fait pas cher la page.
Bah non.
Moi, je vais prendre 3 pages du coup.
C'est très copieux. Alors, on suit un couple d'urbains qui déménage dans une petite ville calme de la Nouvelle-Angleterre, Manningham Falls.
Ouais, c'est ça. Ouais.
C'est une ville que vous avez inventée toute pièce.
Tout
Maxime
à fait. Ouais, ouais.
Et alors, c'est une ville qui va se révéler horrible. Il y a des meurtres, des disparitions.
Mais ça serait pas intéressant, sinon. Non, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un microcosme du monde dans lequel on vit. Or, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus sombre en l'être humain. Donc, bien sûr, je vais mettre en scène ce qu'il y a de pire. Alors, pour le coup, ce livre, c'est un roman qui fait peur. Donc, on va aussi se rapprocher on va aller à la lisière du fantastique. Poser des questions sur est-ce que les morts existent? Est-ce que les esprits existent? Est-ce que les fantômes existent? Et si oui, comment est-ce qu'on pourrait les définir? Et est-ce qu'il y a une explication au fait que certains existent à certains endroits ou pas? Comment est-ce qu'on explique qu'une maison est hantée et pas une autre?
Maxime Chatham, alors dans votre livre, il y a un couple. Donc Olivia, une ancienne gloire de la télé, victime d'un burn-out. Et Tom, un auteur. Vous n'avez pas été chercher bien loin vos personnages parce que quand même, votre femme, Faustine Bollaert, fait de la télévision.
Oui, c'est ça.
Elle n'a pas trop apprécié d'ailleurs de...
Si, ça l'a fait rire. C'est-à-dire que quand je lui ai fait le pitch du bouquin que j'allais écrire au début, elle m'a dit « Mais en fait, tu es en train de faire un livre sur notre famille, là. C'est bizarre, non ?» Donc non, c'est la liberté du romancier. C'est d'aller chercher dans la réalité des choses qui l'amusent, qui l'inspirent et ensuite de les mélanger avec tout un tas d'idées imaginaires. Et donc, je vous mets au défi de savoir ce qui est vrai et pas vrai dans le personnage d'Olivia. Qu'est-ce qui est inspiré réellement de ma femme et ce que j'ai inventé?
Qu'est-ce qui vous fait peur, Maxime Chatham? Les fantômes, les tueurs en série, l'angoisse de la page blanche?
Alors, l'angoisse de la page blanche, pas vraiment, parce que j'ai des cahiers de notes à la maison pour
vous
mes prochains livres.
Vous avez 17 romans de prêt?
J'ai les notes pour 17 romans. J'ai 17 idées de romans qui sont assez abouties pour dire oui, là, j'ai vraiment un projet. Donc, non, j'ai pas peur de manquer d'inspiration. J'ai un tel plaisir à écrire, en fait, je crois qu'il est là le secret. Je pense que l'essentiel, c'est de vous amuser. Si vous avez du plaisir à écrire,
les
ça
gens
va se
ont
ressentir.
Du plaisir à vous lire.
Oui, ça va se ressentir à la lecture et c'est tout. Moi, c'est ce que j'ai. Après, des peurs personnelles, je crois que finalement, je les dissèque tellement dans mes livres que je n'en ai plus réellement derrière.
Parce que votre femme, Faustine Bollaert, dit que vous êtes un être solaire et optimiste.
Alors, pour le coup, oui. C'est dur à croire quand on lit mes livres. Moi, je suis plutôt quelqu'un de je suis plutôt un souriant. Enfin, je suis toujours positif. Je vois le verre à moitié plein en permanence. Enfin, je suis aux antipodes de mon livre et pour autant, je m'intéresse à ce qu'il y a de pire dans l'humanité. C'est peut-être ça, en fait. La vraie solution. Creusez ce qu'il y a de pire chez l'être humain et vous serez tous plus heureux.
Il creuse, il dissèque, il me fait peur, moi. Hein.
Vous êtes un des auteurs français qui se vend le plus, Maxime Chatham?
Oui, probablement. C'est génial pour un romancier parce que c'est une vraie liberté. C'est-à-dire que quand vous vendez pas beaucoup, vous allez voir votre éditeur en disant « Bon, je viens avec un projet qui n'a rien à voir avec le précédent. » L'éditeur peut vous dire « Bah attends, déjà que tu vends pas beaucoup, cherche pas à aller dans toutes les directions. » Moi, pour le coup, je vais voir mon éditeur en disant « Bon, j'ai du succès avec des romans policiers. Là, je viens avec un roman pour adolescents, un roman d'aventure fantastique. Mon éditeur me suit, je fais un roman de fantasy, il me suit, je fais un roman d'humour noir, il y va. Un roman d'épouvante avec comme celui dont on parle, Le Signal. » Il me suit, c'est-à-dire que le succès vous permet d'être libre.
Et vous êtes très proche de vos lecteurs, Maxime Chatham. Vous leur écrivez, vous répondez aux mails.
Bah, je, autant que je peux.
Vous dites que vous êtes plus sensible aux remarques des lecteurs que des critiques.
Déjà, on va dire quelque chose qui se dit assez peu, mais 85% des critiques n'ont pas lu le livre. Ils font avec le communiqué de presse. Et à peu près 15% des journalistes que vous rencontrez quand vous faites la promo ont vraiment lu le livre, mais après ils n'ont pas le temps, hein, ils en reçoivent beaucoup, etc. C'est pas un reproche, mais donc du coup bon, la critique quand on vous dit votre livre est fabuleux, moi je me dis juste oui, ça fait plaisir, mais est-ce qu'il l'a vraiment lu? Et de la même manière, j'ai pas aimé votre bouquin, ok, mais il faudrait qu'on en discute. Alors que le lecteur, il vient vous voir et lui il a payé le livre, donc il est exigeant. Donc si vous dites qu'il a aimé le livre, bon, ça peut être assez rassurant. Si vous dites qu'il n'a pas aimé le livre, vous avez un peu de temps pour discuter et savoir ce qu'il n'a pas aimé dans le livre. Donc ça, c'est intéressant pour un romancier.
Jean-Philippe Visini, il aimerait aussi se lancer dans l'écriture des thrillers. Maxime Chatham, il a des conseils à vous
demander. Bien sûr, oui, parce que moi, j'aime beaucoup lire les choses qui font peur. Là, dernièrement, j'ai lu un truc qui m'a fait hyper flipper. Ça s'appelle « La taxe d'habitation ». On la croyait disparue, mais elle est de retour, la taxe d'habitation. Voilà. Alors, merci Macron. Donc, je me suis dit, si Manu y arrive à nous faire des trucs qui nous font peur, pourquoi pas moi? Donc voilà, j'ai une idée de scénario et j'aimerais savoir, Maxime Chatham, ce que vous en pensez. Donc, je vous explique un peu. Donc d'abord, dans le rôle de la victime, il me fallait un homme que, quand on le voit, on sait que c'est lui qui va prendre cher. Et comme dans tous les films, c'est toujours le Renoir qui meurt en premier, j'ai choisi Michael Quiroga.
Bah tiens, comme par hasard.
Dans le rôle de la méchante, il me fallait une femme
angoissante qui naturellement, hein, sans jouer, terrorise tout le monde. Donc là, pour des raisons évidentes de restrictions budgétaires, j'ai pris Christine Béroux. Et comme dans chaque thriller, il faut toujours une femme sublime, charismatique et envoûtante. Donc là, pour des raisons évidentes, car j'ai pas envie de me faire virer, j'ai choisi Anne Roumanoff. Voilà. Donc déjà, le casting, c'est pas mal.
Il est génial, votre
très casting. Bon casting. Donc voilà, l'histoire, vous allez voir, c'est assez fort, assez original. Nous sommes le soir d'Halloween et Michael a rendez-vous avec une femme mystérieuse qu'il a rencontrée sur adopteunedésespérée.com. Il arrive devant le manoir, il sonne, la porte s'ouvre.
Bonsoir, vous êtes encore plus belle que sur votre photo.
Bonsoir. Bon bah c'est pas grave, rentrez quand même.
Voilà, donc c'est le coup de foudre. Anne fait entrer Michael et lui fait visiter son manoir quand tout à coup...
Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est le fantôme à la voix aiguë. C'est une femme qui a vécu ici il y a très longtemps et qui a été assassinée par son mari car il ne supportait plus sa voix.
Ouh, je suis Christine, le fantôme. Vous allez tous mourir.
Ah ouais, il n'est pas crédible, le fantôme.
Ouh, attention, j'arrive.
Bon, écoutez, c'est décidé. Demain, j'appelle Stéphane Plaza, je mets en vente le manoir.
Voilà, alors, pour l'instant, j'en suis là. Maxime Chata, vous qui êtes un expert, est-ce que vous pensez que le fantôme à la voix aiguë mérite un jour d'être publié?
Écoutez, je ne suis pas sûr, mais tentez votre chance, c'est le public qui décidera.
Merci beaucoup.
Vous avez eu l'idée de ce livre parce que vous avez un grand sous-sol chez vous et que des fois vous avez la flemme d'allumer pour traverser. Et un jour vous avez allumé un néon, il a crépité et s'est éteint.
C'est-à-dire que dans le flash, vous savez, un romancier, il ne faut pas grand-chose pour que ça parte. Dans le flash de lumière, au moment où le néon s'allume et il se rééteint, il y a une demi-seconde, vous êtes dans le noir et là vous dites... C'est marrant, s'il y avait eu un type, une silhouette face à moi, et d'un coup je me retrouve dans le noir et je sais qu'il y a un type certainement mal intentionné, et qu'est-ce qui va m'arriver? Voilà, c'était le point de départ d'un livre. Le roman est né comme ça.
Enfin, ça, c'est ce que vous dites, vous, parce que la plupart des gens ils disent merde, l'ampoule, puis c'est tout. Quoi.
mais vous savez, je vous donne un exemple. Sur la plage, la plupart des gens regardent comme ça, voilà. Un romancier, quand il regarde, il voit les gens à côté, il se dit bon, alors tiens, lui, la façon dont il parle comme ça, ça ferait une bonne victime. Tiens, lui, il est en train d'enterrer ses gosses dans le sable pour jouer. Mais un romancier, lui, voit le pire souvent. Donc, on s'imagine qu'on est entouré de gens bienveillants sur une plage. Non, si vous avez un romancier, c'est pas le cas.
Moi, la plage, c'est que tiens, elle aurait pas dû manger autant. Tiens, elle a bien mangé. Tiens, pas eu... Ah, ça, c'est pas mal. Chérie, regarde, tu vois, avec un peu d'effort.
Vous avez des très jolies phrases sur votre femme. Vous dites Faustine est cette femme qui tient une petite bougie allumée dans les ténèbres et qui m'aide à remonter et à retrouver la lumière. C'est joli ça.
Mais parce qu'elle est la lumière de ma vie.
Oh. Et pour le coup, vous l'avez rencontrée à Europe 1. Vous,
ouais,
elle vous a interviewé et vous aviez un coup de foot dès qu'elle vous a interviewé ou...
Oui, alors c'est-à-dire qu'à l'époque, l'histoire est un peu amusante. C'est que un an et demi avant ça, je suis en train d'écrire un roman qui se passe à Paris en 1900, un thriller historique. Et je cherche le nom de. Il y avait un héros qui était un romancier dont je lui avais donné mon second prénom. Et parce qu'il me ressemblait quand même pas mal. Et à un moment, cet homme va rencontrer une femme, il va tomber amoureux d'elle, etc. Et je trouvais pas le prénom de cette femme. Et un jour, par hasard, je tombe sur la radio et j'entends, et si c'était ça le bonheur, Faustine Bollard, c'était son émission. Et je me dis, Faustine, mais le prénom est génial, en plus il colle au personnage. Donc j'appelle l'héroïne Faustine. Le livre sort un an plus tard et je fais la promo. Et puis, au bout d'un moment, ermite que je peux être parfois, je dis à mon attaché de presse, j'ai fini, maintenant je retourne à l'écriture, je veux plus entendre parler de promo, etc. C'est non. Elle m'appelle au bout de 15 jours, elle me dit, écoute, je sais que tu veux plus sortir, mais là, pour le coup, ça peut t'amuser, c'est l'émission, tu m'as dit un jour, tu sais, elle t'avait inspiré, etc., Faustine Bollard. J'y vais, parce que ça m'amusait. Je lui raconte l'histoire en direct. Elle me regarde avec grands yeux en se disant, qu'est-ce que c'est que cette technique de drague à deux balles? Mais c'était vrai, pour le coup. Et je trouve cette fille incroyable, etc. Bon, puis la vie fait que on se revoit pas pendant presque un an.
Ah oui, je crois, ah oui.
Ben, on avait des histoires personnelles à solder.
Ça s'est juste fait un interview derrière un micro et vous ne vous voyez pas pendant un an.
Voilà. On a eu une heure de discussion en direct à la radio. Je peux vous dire qu'à notre mariage, on nous a repassé des extraits. On a bien ri parce que on se drague ouvertement, c'est-à-dire qu'à un moment on se rend même plus compte qu'on est sur l'antenne.
Et pendant un an vous pensez à elle ou pas du tout?
Oui, elle est dans ma tête, c'est sûr, mais après la vie fait que, et apparemment c'est réciproque. Et puis on se renvoie un texto un beau jour comme ça.
Qui c'est
qui a envoyé un texto à qui? Non, parce qu'il s'agit d'être précis quand même.
Alors, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, écoutez, j'ai une technique de drague. Je suis un romancier, moi. Je sais écrire des histoires. Mais dans la vraie vie, je suis nul. Et donc, j'ai une technique de drague complètement bidon. C'est-à-dire qu'un beau jour, je lui dis, écoute, toujours envie de regarder un film d'horreur. Parce que je lui avais dit que j'avais une salle de ciné à la maison, etc. Et que pour regarder un film d'horreur, c'était amusant. Et elle me répond avec plaisir, ouais, c'est pour vous dire que ça n'allait pas très loin. Et on s'est retrouvés comme ça à dîner et c'était parti. Et on est 8 ans plus tard, fou amoureux, parce que je le redis, je suis fou amoureux de ma femme. 2 enfants et pour le coup, un peu la famille cliché qu'il y a dans le Signal, la famille du bonheur, c'est vrai, je me suis largement inspiré de la mienne.
Oh, c'est joli.
Comme quoi on peut écrire des histoires horribles et vivre une belle vie.
Merci Maxime Chatham d'être passé nous voir. On rappelle votre livre, Le Signal, un roman qui fait peur, qui vient de sortir aux éditions Alba Michel, qui se passe dans une petite ville imaginaire. Ça fait peur.
J'espère ça fait peur, j'espère surtout qu'on s'amuse à le lire.
Quels sont les premiers retours qu'on vous a fait sur ce livre, Maxime Chatham?
Et écoutez, pour l'instant, je le dis parce que c'est la première fois que c'est à ce niveau. J'ai des retours dithyrambiques, j'ai énormément de personnes qui m'écrivent. Parce que l'avantage des réseaux sociaux, c'est que les gens se privent pas. Sur certains bouquins, je reçois des commentaires de « c'est pas du tout ce que j'avais envie de lire ». Là, celui-ci, j'ai énormément d'avis positifs. Et j'avais un peu peur de l'accroche qui a été émise par mon éditeur au dos du livre. Avez-vous déjà eu aussi peur?
Avez-vous déjà eu vraiment peur en lisant le livre? Vous aviez peur que ce soit trop?
J'avais peur que ce soit trop parce que quand on surjoue, c'est comme quand on vous dit « Attends, je vais te raconter une histoire, elle est super drôle. » Et finalement, je reçois énormément de commentaires de gens qui me disent « J'ai vraiment eu peur à lire ce livre, mais j'ai pris énormément de plaisir à avoir peur. » Et ça me fait plaisir.
Ça donne envie.
Merci Maxime Chatham. Le formidable Bruno Salomon est avec nous.
Comment ça va, Anne?
Très bien, Bruno. Alors, vous êtes là pour un one-man show, Bruno Salomon euphorique.
Oui. Alors, j'avais un autre titre, c'était Les périlleuses péripéties du bébé qui rit, mais on m'a dit c'est trop long.
Alors, c'est un spectacle où il y a 43 personnages.
C'est ça. Alors, au début, je pensais qu'il n'y en avait que 12, puis je me suis mis à les compter, et il y en avait 43. Je ne sais pas pourquoi 12.
Vous êtes nombreux dans votre tête, alors, Bruno Salomon.
Il y a du monde. Là, je ne sais pas qui vous parle, d'ailleurs.
Alors, c'est un spectacle mis en scène par Gabor Rassov, c'est un metteur en scène de théâtre qui n'avait pas fait de mise en scène de one-man show. Vous donnez un côté théâtral à ce spectacle? C'était un
Je voulais
plaisir.
Un spectacle hybride, c'est-à-dire être entre le seul en scène, entre le one-man show et le stand-up. Je dirais, enfin, comme c'est tellement à la mode le stand-up, je voulais pas repartir dans du stand-up et j'avais envie de raconter une histoire.
Parce que vous avez toujours fait beaucoup de personnages, vous vous êtes fait connaître avec le hamster.
Le cochon d'Inde.
Cochon d'Inde.
Attention, il y a une nuance. Ah non, c'est important.
C'est pas pareil.
C'est pas les mêmes origines.
Non, mais il y a toujours eu, vous avez toujours eu un goût, Bruno Salomon, pour l'humour absurde, en fait, vraiment.
Oui,
puis on vous a vu beaucoup aussi au cinéma, à la télévision, notamment dans la série Fais pas ci, fais pas ça. Ça a été
tout
important pour vous, cette série?
Ouais, c'était déclencheur. Ouais. Déjà, on m'a désigné comme comédien et plus comme comique. C'est assez marrant, cet a priori qu'on a.
Ah bah, je sais.
Bah oui, vous imaginez. Mais c'est étonnant. C'est-à-dire qu'après, je faisais des essais avec mais en fait, tu joues bien. Et je dis, mais pourquoi en fait je joue bien? Ben, je sais pas, dans ton spectacle, tu faisais des sketchs, tu faisais des personnages.
Tu faisais des cochons d'Inde.
Tu faisais des cochons d'Inde, c'est n'importe quoi. Et en fait, je leur dis, mais dans mon spectacle, je faisais plein de personnages. Donc à partir du moment où on investit un personnage, on joue. Donc c'est de la comédie. Pour moi, c'est la même chose. Mais
Alors au départ, vous étiez partie des Nous, c'est nous. Vous
c'est
étiez
ça.
5
Tout à fait.
Avec Jean Dujardin et vous. Et c'est quand même vous deux qui avez le mieux réussi.
Non, il y a Emmanuel Jouclat qui a réalisé un film qui est passé sur Comédie avec tout le monde. D'ailleurs, il y avait aussi Jean, il y a Eric Collado qui tourne pas mal et Eric Machaud aussi. Mais c'est vrai que bon, il y en a un qu'on a plus vu que les autres.
Hein. Vous auriez aimé continuer cette aventure collective? Ou alors, c'est... Bon, je veux dire, vous auriez pu devenir comme les... À un moment, on a dit, c'est les nouveaux inconnus, c'est les
comme
nouveaux...
Comme les inconnus, ouais. Bon, on cherche toujours à être le nouveau de... Ouais. Mais finalement, on était les anciens inconnus.
Aucun projet à venir ensemble, vous l'envisagez?
Si, on a pas mal de projets, parce que le producteur, Olivier Amiot, il lâche pas, il veut qu'on se regroupe, donc on a peut-être refaire des choses ensemble.
Ah, ouais. Super.
Tous les 5.
Ouais, tous les 5. Ouais. Mais Jean, il est à fond partant. Enfin, ça fait partie de lui aussi. Quoi. Enfin, régulièrement, il sort des petites vannes.
Il vous a présenté Georges Clounet?
Non. Non, il m'a pas présenté Georges, dis donc.
Ah bah.
J'aurais bien aimé aller au lac de Côme avec eux. Là. Ça a l'air sympa.
Vous avez voyager, beaucoup de plaisir sur scène vous
Ah bah évidemment. Pourquoi vous n'arrivez pas?
Si, non, mais je veux dire, par rapport à toutes vos activités sur scène, c'est là où vous avez le plus de plaisir, Bruno Salomon ou...
Ouais, je pense que c'est là où on s'épanouit le plus. Justement, on devient euphorique. C'est... D'où le titre, vous avez vu le petit clin d'œil. Non, parce qu'on est en transe sur scène, on vit des choses qu'on ne peut pas vivre derrière une caméra. Ou alors, si on.
Donc il y a 43 personnages, qu'est-ce qu'il y a comme personnage dans le spectacle?
Ah bah, il y en a pas mal. Il y a Michael D'Amour, par exemple, chanteur d'amour dépressif, qui fait des flash d'ep, des dépressions flash. C'est-à-dire que je me mets à pleurer comme ça, n'importe où, n'importe quand, pour n'importe quoi. Un trou dans mon pantalon, un orgelet, un coca sans bulle. J'ai toujours pleuré depuis que je suis né. Mes parents ont voulu me balancer par la fenêtre plus d'une fois. J'ai pensé à me suicider, mais je suis bouddhiste. Et je crois, je crois énormément à la réincarnation. Si par exemple tu devais être une panthère, tu peux te retrouver en éponge de mer ou en pelouse, tu vois, enfin un truc pourri quoi. Donc il y a lui que j'aime beaucoup, qui est un personnage qui était dans Les Nouches et Doux aussi.
Il s'appelle comment ?
Michael Damour.
Ah, Michael, il fait quoi comme métier ?
Il est chanteur dépressif. C'est son métier. Et chanteur, non, en fait il était chanteur très connu dans les années 90. Et aujourd'hui carrément inconnu dans les années 2018. Quoi.
Il chante quoi ?
Ah, il a chanté plein de chansons. Hein? Il a chanté « Moi et moi », par exemple. « Moi, je suis seul avec moi et moi. Je suis seul à l'intérieur de toi. Je suis seul avec moi et moi. » C'est ça, hein. C'est beau.
Alors, le spectacle s'appelle « Euphorique Bruno Salomon ». Il y a vraiment au moins une cinquantaine de dates dans toute la France, partout. Hein. Bastogne, en Belgique aussi, d'ailleurs, pardon. Vals-les-Bains, Montigny-les-Metz, Davezieux, La Grande Motte. Passe, Rombaz, Vias, Royan, Condom,
ouais, c'est là où ils ont inventé les préservatifs. Je crois. Ouais.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme personnage dans le spectacle, Bruno Salomon ?
Alors, il y a Martine Confort qui
part comme ça.
En fait, Martine Confort, elle est spectatrice professionnelle. Ah. C'était, elle va tout expliquer.
D'ailleurs, j'étais à votre spectacle, à Normanov. Bon, c'était bien, hein, mais bon. Enfin bon, il y a un petit truc que je voudrais dire, c'est que j'étais assise au fond de la salle. Bon, déjà, il devait y avoir une porte ouverte parce qu'il y avait des courants d'air. Enfin, je ne sais pas. Il y avait un monsieur d'environ 2 mètres, 2 mètres 10, assis juste devant moi. Je n'ai absolument rien vu du spectacle. J'ai passé mon temps à me dresser comme un suricate. Vous voyez les suricates ? En plus, il n'arrêtait pas de bouger. Là, je faisais des essuie-glaces en permanence avec ma tête. Alors, un suricate qui fait des essuie-glaces, merci bien.
43 et personnes.
Ça vous arrive pas, ça, Anne ? Toujours quelqu'un qui vous fait un petit commentaire sur le confort de la salle. Si, et quelqu'un ça... à côté de moi qui arrêtait pas de bouger. Non, ça
oui,
vous fait
si,
pas
si,
ça
si, si. Et alors, il y a une prof de self-défense castagneuse.
Ouais, Nadia. Bonjour, je m'appelle Nadia. Je suis ta nouvelle professeure de défense.
Vous aimez bien les abrutis, en fait.
Mais aussi d'attaque. Moi, c'est comme tu me parles, toi.
je pense que les gens intelligents, ça fait chier tout le monde.
Il y a une cagole surexcitée, c'est comment ça ?
Là, c'est Tatiana Pompémol. Le jour où j'ai rencontré le père de mon fils, on ne peut pas dire que c'était un coup de foudre. Hein. C'était un coup. Ça s'est passé en discothèque, à la Pachole Fondue. C'était l'enterrement de vie de jeune fille de Tessie, ma meilleure amie. Le thème de la soirée, on devait chacune ramener une drogue, quoi. La soirée de folie, quoi. On a tout fait ce soir-là. Un coq, pétard, popper, sextime, des tours, on était décoilés. Comme on s'est pris une caisse de l'espace. J'étais lâché à fond, on m'aurait fait sniffer de l'euthanasie que j'aurais dit oui.
Là, on vient de vous voir dans le volet 2 de Tamara, d'Alexandre Castagnetti.
Oui.
Et vous êtes la voix off du jeu télévisé Burger Quiz.
Oui.
Ça se passe comment, la voix off ?
Ah, c'est génial. L'univers de Shabba, c'est vraiment un univers qui m'a inspiré aussi. Si vous voulez que je fasse en léger différé, du studio on enregistre pour la première fois en France, Anne Roumanoff, avec ce soir des invités, des candidats.
Sans effet.
Sans effet.
Bravo.
Ouais, mais c'est ce qu'il voulait. Il voulait un truc un peu au second degré comme ça.
Qu'est-ce que vous aimeriez dans les années qui viennent, Bruno Salomon ?
Oula, ça devient grave.
Mais non, c'est.
Je sens.
Au point de vue international, hein, de géopolitique, c'est.
Non, mais qu'est-ce que vous aimez.
Non, au point de vue personnel.
Non, qu'est-ce qui vous ferait plaisir dans les années qui viennent, Bruno Salomon ?
Que mes projets se réalisent, parce que je suis à l'écriture d'un livre, je suis à l'écriture d'un film d'animation, je suis à l'écriture de plusieurs longs métrages, etc. Mais c'est compliqué parce que c'est un univers un peu barré à chaque fois que j'essaye de vendre.
D'un livre roman ou autobiographique ?
Ah, un roman délirant, on va dire. L'histoire d'un mec qui a en fait des petits problèmes avec certains sons. Et un peu comme Martine Crawford aussi, qui supporte pas quand elle va au spectacle, il y a quelqu'un qui mâche des popcorns.
Ah oui, vous supportez pas les gens qui mastiquent, vous, de toute façon.
Et ça a un nom, ça s'appelle la misophonie, en fait, des gens.
Non, mais
un
vous,
peu
dans la vie, Bruno Salomon, vous supportez pas les gens qui mastiquent.
Et moi, j'aime pas trop les gens qui. Comme ça,
ouais.
C'est marrant quand tu dis j'aime pas, tout de suite, les gens ont envie de le faire. Hein. C'est
ça vous tape sur les nerfs, vous pouvez devenir fou avec ça.
Oh, bah oui, bah, on est nombreux. Hein.
Ouais,
ouais,
ouais. C'est en voiture, quand il y a un truc dans la boîte à gants, là, t'es que tu tournes, bang, bang, bang.
Ça n'a aucun rapport.
J'avais envie de le dire, ça m'a soulagé.
Mais si, t'as raison.
Ça m'a soulagé.
En fait, c'est plein de bruits répétitifs. On est nombreux. Ça peut être le stylo, quelqu'un qui clique avec son stylo.
Ça
peut être quelqu'un qui. Kirnip, Kirak, enfin, il y a plein de trucs. Vous voyez, on est nombreux. Hein.
J'ai ça, moi, j'ai tout. Moi.
Ouais, tout, t'as tout. Bah, t'es misophone. J'ai bienvenue au club.
Ah,
bah,
on
est
nombreux.
Je crois qu'on est 20% à être misophone d'après les sondages que j'ai inventés moi-même. Dans le bouquin, je parle d'un personnage, c'est pas moi, parce que moi, je suis observateur dans l'histoire, qui, lui, va avoir un comportement hors norme et qui va. Je vous raconte pas tout parce qu'il est, pas, il est en train d'être.
Oui,
d'être...
Pourtant, il vaut mieux qu'on termine.
Vous voulez que je vous raconte ma vie?
Oui.
Je suis né le 13 juillet 1970. Il faisait très beau. C'était un lundi. À 6h45, j'étais beau. Et je suis né en riant, comme Gollery, le personnage de mon spectacle.
Notre première invitée de l'émission est bourrée, non pas à la bière, mais de talent. Elle est drôle, blonde, belge. Ça aurait pu être Annie Cordy, mais elle a 120 ans de moins. On est très heureux qu'elle soit là, car elle va pouvoir nous expliquer le titre de son album et lequel elle cartonne, Brawl. Merci d'applaudir très fort, Angèle.
Yes.
Bonjour. Bonjour Angèle.
Bonjour, bonjour, merci pour cette présentation. J'aime beaucoup la comparaison avec Annie Cordy. Je suis une grande fan.
Ah. Alors vous êtes belge et vous avez 23 ans, l'âge de ma fille.
Ah oui, bah oui.
Et votre mère est plus jeune que moi.
Oh voilà. Ça commence bien. Dit.
Qu'est-ce que ça fait ce succès, Angèle, qui arrive comme ça, comme un ouragan là?
Eh bien, je dirais comme un... Oui, bah, un ouragan, c'est un peu violent, mais c'est un peu ça. Moi, je parle souvent d'un tsunami, mais positif.
Ah oui, c'est pas violent, un tsunami.
Non, mais positif.
Ah, vrai. Positif.
C'est important de le dire.
Non, parce que c'est vrai que...
C'est une vague qui arrive, mais l'eau, elle est chaude.
Mais voilà, c'est agréable.
La température.
Il y a des petits canards.
45 dates en tout, et 36 dates, dont 25 sont déjà complètes. Comment vous expliquez ça?
Bah, moi, je ne l'explique pas. Je ne sais pas l'expliquer.
Ouais.
Mais il y a beaucoup de chance, et il y a beaucoup de travail. Et c'est mélangé.
En plus, vous écrivez vos textes, vous composez vos musiques, vous produisez vous-même. Vous êtes fait connaître par Instagram.
Exactement. Je me suis fait connaître il y a maintenant, je pense, 3 ans via Instagram en faisant des petites vidéos où je faisais des montages.
Il y avait un livreur Deliveroo qui arrivait, vous chantiez
par
une
exemple.
Chanson.
Bah après, il n'existait pas ce livreur, je l'inventais.
Ouais.
Et en effet, il y a eu ça, puis il y avait des reprises de tout genre, en français, en anglais, en espagnol.
Et là maintenant, vous avez 800 000 abonnés sur Instagram.
Ouais.
Vous êtes une influenceuse.
Non, parce que je fais en sorte de ne pas influencer les gens. Ou alors, si je les influence, c'est pour des causes qui me paraissent importantes, mais j'essaye de ne pas les influencer.
Vous parlez beaucoup des réseaux sociaux dans vos chansons, et vous
oui.
les dénoncez, et donc vous dites que sur Instagram, vous essayez de montrer des images de vous, pas forcément à votre avantage.
Ouais, après, bon, bah, c'est tentant de se rendre beau quand on est sur Instagram et quand on est tout le temps pris en photo ou filmé, donc évidemment, je ne vais pas m'en les dire, mais j'aime bien l'idée que... Aussi sur Instagram, là où les gens vont avoir le réflexe de se montrer sur leur plus beau jour, avec des filtres, avec des montages, avec des poses improbables pour ne pas montrer le bourrelet qui dépasse, bah d'essayer de se montrer aussi tel qu'on est, et c'est comme ça qu'on arrive à s'accepter.
Vous avez fait vos débuts alors en première partie d'un rappeur?
Oui, d'un rappeur Damso. C'était un peu invraisemblable parce que, en fait, à la base, son équipe m'a contacté parce qu'il cherchait une claviériste pour avoir des musiciens. Et moi, j'ai répondu oui, mais j'étais en train de préparer ma tournée. C'était il y a un an, il y avait encore rien qui était sorti, le single d'Alan Murphy allait sortir. Et donc, j'avais dit, bah, oui, mais ça va un peu brouiller les pistes si je me présente comme chanteuse et puis qu'en fait, je suis musicienne, parce que j'étais musicienne à la base. Et donc, musicienne, j'étais que pianiste. Et donc, il m'a dit, bah, ok, bah, fais la première partie. Et donc, j'ai fait la première partie de Damso pendant 3 mois.
Et c'était partout, hein, vous l'avez suivi partout?
Ouais, pendant 3 mois, j'ai suivi partout. On a fait des dates on a fait une date en Belgique à Forêt Nationale, qui est une grosse, grosse salle. Et puis, on a fait plein de dates... à Paris.
Et la première fois, ça s'est mal passé, c'est ça?
Parce que la première fois, c'était à Strasbourg.
Ouais.
Et en fait, je suis arrivée sur scène sans trop savoir dans quoi je m'embarquais. Et je ne me suis pas présentée. Je suis montée, j'ai commencé à chanter. Et les gens ne s'attendaient pas à me voir. J'ai entendu des cris. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, je me suis dit, bon, il faut que je continue. Puis au bout de la deuxième chanson, bah, en fait, je me suis dit, en fait, il faut que je me présente, il faut que j'explique aux gens.
Ouais.
Et donc, je me suis présentée, je les ai un peu chauffées. Je leur ai dit, voilà, vous êtes contents? Je m'appelle Angèle. Et en fait, le fait d'être très honnête et de me présenter telle que j'étais, sans me la jouer
rappeur,
en fait, sans me la jouer pop, en me disant, bah non, moi, je m'appelle Angèle, je chante des chansons d'amour. En fait, ça passait beaucoup mieux que d'arriver, d'essayer d'imposer quelque chose que j'étais pas. Mais ça, je l'ai appris au fur et à mesure des dates. Mais ça a été un exercice...
Ça vous a formé.
Ah, mais tellement. Et puis aujourd'hui, chaque fois que je monte sur scène, le fait d'avoir des gens qui sont contents de me voir, parce qu'une première partie, c'est très ingrat,
Vous le savourez.
Ouais, c'est
bah nous, on est très contents de vous voir, Angèle,
oui.
Et on va vous
merci.
Écouter tout de suite.
Oui. Allons-y.
n'existe pas sans son contraire, qu'il lui semble facile à trouver. Le bonheur n'existe que pour plaire, je le veux. Enfin je commence à douter d'en avoir en mon revu. Et sinon vie parfois je me sens obligée. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être heureux. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué. Tout, il faudrait tout oublier. On pourrait croire, il faudrait tout oublier, tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je l'aurai. N'existe pas sans son contraire, une jeunesse pleine de sentiments. L'ennui est inconditionnel, je peux ressentir le malaise des gens qui dansent. Essaie d'oublier que tu es seul, le souvenir comme la DSL. Et si tout le monde t'a délaissé, ça s'est passé après les soldes. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier, tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je le veux. Ferme les yeux, oublie que tu es toujours seul. Oublie qu'il t'a blessé, oublie qu'il t'a trompé. Oublie que t'as perdu tout ce que t'avais. C'est simple, sois juste heureux, si tu voulais, tu le serais. Tout, il faudrait tout oublier pour y croire. Il faudrait tout oublier, tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux, je le veux. Tout, il faudrait tout oublier. Pour y croire, il faudrait tout oublier, tout oublier. On joue, mais là j'ai trop joué. Ce bonheur, si je le veux.
Angèle en live dans le studio d'Europe 1, un extrait de votre album Brawl qui cartonne, c'est disque de platine, c'est ça?
Ouais, incroyable. Ouais. Je suis très contente.
Mais il faut le dire parce que c'est rare. Mais en plus, plus personne ne vend rien, et vous?
Ouais, c'est fou.
Je vous présente Jérémy Lorca.
Oui, parce qu'en fait, au milieu des cris, de l'agitation qu'on a eu tout le week-end et de toutes ces violences, lundi soir, j'avais besoin de m'échapper de la réalité, de me ressourcer auprès des miens. Je suis donc allé à une soirée pour le lancement d'un nouveau parfum. Bon, le parfum, je m'en foutais, j'y suis allé clairement pour manger gratos. Sauf que dans ce genre de soirée, il n'y a jamais rien à manger. Il est 23h30, t'es en galère, t'as dîné 9 coupes de champagne et 4 olives. T'es dans un état proche de l'Ohio et c'est toujours là où il y a une chanson qui passe que tout le monde connaît sauf toi. Tu demandes qui est la chanteuse et là, on te répond, hey, mais t'es sérieux? Tu connais pas Angèle, c'est la nouvelle hype cette meuf, c'est une go tellement fraîche, faut la follow sur Insta, la débat est chiant, mais Anne, t'as compris un truc? Parce que même moi, hein, je te rassure, Anne, ça m'a foutu un coup de vieux. Et c'est vrai que vous êtes branchée, Angèle, dans cette soirée, il n'y avait quasiment que des influenceurs et ne parlait que de vous. Alors la définition exacte d'influenceur, c'est un individu qui, par son statut, sa position ou son exposition médiatique, peut influencer les comportements de consommation dans un univers donné. C'est fou, ça s'y méprend la définition des gilets jaunes. Et vous-même, avec vos 800K sur Insta, malgré vous, vous êtes influente. Et c'est vrai qu'on ne parle que de vous partout, même dans les dîners mondains en ville. Alors par dîner mondain en ville, j'entends la soirée athlète que j'ai organisée chez moi hier, où j'ai découvert que vous avez un succès incroyable auprès des hommes. Je veux des conseils. J'ai un pote hétéro qui m'a dit à propos de vous, ne serait-ce qu'entendre son prénom, ça me procure un sentiment de bien-être et d'évasion. Cette nana, c'est mon Ushuaïa musical. À mon avis, dans la athlète, il y avait un truc qui n'était pas légal. Il y a un autre pote qui m'a dit, avec les filles en général, je veux un plan cul, mais en général, Michel, elle te donne envie d'avoir un plan cœur.
Waouh.
Waouh.
Ouais, et du coup, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle a de plus que moi? Mes potes me répondent, bah déjà, c'est une fille, elle a une jolie voix et elle est jamais vulgaire. Et c'est vrai que dans une de vos chansons, vous remplacez les vulgarités par des je le fais pas bien, mais.
Si, si, vous le faites
c'est
très
ça
bien.
Ok. Alors, vous dites, par exemple, va te faire et les gilets jaunes pourraient les. Ça pourrait les zénifier de parler comme ça. Genre, Macron, démission, ta réforme, fous-la-toi dans le fût. Bon, je l'ai un peu raté, mais même nous, ça nous ferait du bien de parler comme ça. Ça serait plus doux, par exemple. Vous avez une chanson qui dit « Je veux tes yeux ». Eh ben moi, Jean-Fille, je veux ton...
Ah non, ça va.
Et ce qui est bien, Angèle, c'est que vous nous apaisez aussi dans nos angoisses. Vous parlez de ce cauchemar qu'on a tous vécu. Vous chantez « Connecté, en ligne, mais pas à moi. J'ai vu que t'as vu, tu réponds pas ». Mais vous, ça vous est déjà arrivé ?
Mais bien sûr, c'est terrible.
Mais c'est l'enfer, c'est horrible. T'envoies un message et c'est marqué « Lu ». Pas de réponse. Tu renvoies un deuxième message, lu. Un troisième, lu. Et puis d'un seul coup, tu vois hors ligne, puis plus rien, puis on t'a bloqué. Non mais c'est l'enfer. Et ben moi, ça me fait du bien de savoir qu'on était au moins deux galériens. Et vous nous faites vachement déculpabiliser parce que vous chantez. Je passe à la banque, je laisse passer Mémé. Si seulement j'avais su qu'elle relèverait tous ses extraits de l'année, je l'aurais poussée et coincée dans la porte automatique. Mais merci. Mais merci.
Bah oui.
Vous libérez la parole. Il y a des enfants qui crèvent de faim, il y a des gens qui se sont battus pour du Nutella, qui se battent aujourd'hui pour de l'essence. Alors merci d'apporter beaucoup de douceur dans ce monde de...
Oh, merci, merci beaucoup.
Angèle, il y a beaucoup, beaucoup d'humour dans vos textes.
Oui, il y en a. En fait, c'est important. Je trouve que l'humour, c'est comme une arme, ou en tout cas une arme de défense, qui permet de... En fait, l'humour et l'autodérision permettent de garder un recul par rapport à ce qui arrive, par rapport aux événements et par rapport aux situations. Et en fait, avec l'humour, on peut aborder pas mal de sujets sans que ça soit compliqué, sans que ça frotte, en fait.
Qu'est-ce que vous avez de belge, Angèle, en vous ?
Bah, je n'ose pas trop le dire parce que du coup, ça serait critiquer la France, mais...
Dites rien alors.
Non, allez-y, on est entre nous.
Je vais rien dire. Non, je crois qu'en Belgique, comme c'est un petit pays qui en plus est linguistiquement divisé, la culture est aussi divisée. Et donc, il y a cette sorte de méga modestie, mais parfois qui est encombrante parce que parfois on a tellement pas fier de nous qu'on se dénigre un peu. Et du coup, comme on n'est pas fier, on fait les choses un peu dans l'ombre. Et je crois qu'il n'y a pas la même fierté, mais c'est pas pour critiquer la France. Je crois que c'est par rapport à tous les autres pays même qui nous entourent en Belgique.
Il y a l'humilité en Belgique.
Ouais, je crois.
Nous aussi, on est humble. Hein. Nous aussi, hein. On vous a éclaté la Coupe du Monde et on le dit.
J'allais dire, personne n'a parlé de foot.
Bon.
Est-ce qu'on parle de foot, Angèle ?
On n'a rien dit.
Parlons-en. Ça vous fait du bien, allez-y.
Non.
Vous aimez le foot, Angèle ?
Non, mais j'aime bien la Coupe du Monde parce que j'aime bien le rassemblement de gens heureux. Alors moi, j'ai pleuré pendant la Coupe du Monde, mais de joie alors que j'étais en France. J'aurais dû être triste. Et j'étais tellement, je trouve ça tellement chouette de voir tout le monde réuni dans la rue et s'amuser. Moi, jusqu'à ce qu'ils brûlent des voitures, mais bon, ça, fallait que ça arrive. Mais avant, c'était super chouette et du coup, j'avais une petite larme et tout. J'étais très heureuse.
Et ben, nous, on est très heureux d'avoir vous avoir reçu ce matin. Merci Angèle d'être venue. On rappelle votre album Brawl et on rappelle cette tournée qui est complète partout. Essayez d'aller voir Angèle et elle est disque de platine. Merci beaucoup.
Merci.